Découverte, initiative écologique, parlons nature, une émission de résonance sonore.
Je suis au niveau du port Saint-Étienne à Toulouse avec Romain de l'association Les Pieds sur l'eau. Bonjour Romain.
Bonjour Sophia. Donc on est ici au niveau du port Saint-Étienne, effectivement à Toulouse. On a ici les bureaux de Voies Navigables de France et aussi un espace très insolite. Il s'agit des archives du Canal du Midi et je propose de rencontrer ensemble Samuel Vanier, l'archiviste du Canal du Midi.
Bonjour. Comment allez-vous ?
Merci de nous recevoir.
Merci. Je suis Samuel Vanier, je suis responsable de l'unité patrimoine, culture et archives à Voies Navigables de France, direction régionale sud-ouest. Et je suis responsable de la gestion des archives des canaux du Midi. Alors là, on est dans le hall, on était sur la cour des archives et on rentre dans ce petit hall, j'allais dire, et on est devant trois portes. Celle d'en face va dans la grande réserve. Celle de droite dans la petite réserve et celle de gauche dans le bureau de l'archiviste.
Qu'on va rentrer dans le bureau de l'archiviste.
Voilà, on rentre dans le bureau de l'archiviste. Ici, on est dans un bâtiment historique qui a été construit en 1830 pour les archives du Canal du Midi. C'est un bâtiment assez emblématique qui n'est pas le premier dans l'histoire de l'administration du Canal du Midi. Puisque c'est une administration qui a été créée à la fin du XVIIe siècle, le canal du Midi ayant été construit de 1667 à 1684. La fin officielle des travaux, c'est 1684. Après, derrière, il faut, une fois qu'on a construit l'infrastructure, il faut l'administrer. Et il y a une administration qui est centralisée sur Toulouse et qui se déploie sur les 240 km du canal à travers des sections, ce qu'on appelle à ce moment-là des départements. Il y a 7 départements au XVIIIe siècle, et chaque tête de département a un pôle administratif. Le fondateur du canal, c'est Pierre-Paul Riquet, et ses héritiers ont été les gestionnaires du canal pendant tout le XVIIIe siècle. Et c'est au milieu du XVIIIe siècle que un des héritiers prend la décision de créer un dépôt d'archives à Toulouse. Toutes les archives qui sont produites le long du canal, dans les pôles administratifs, sont ramenées sur Toulouse, quand elles ne sont plus nécessaires à la gestion des affaires courantes. Et donc ce premier bâtiment d'archives va être vite trop petit. Il va être remplacé par le bâtiment dans lequel on est, qui a été construit en 1830. Donc ce bâtiment, il est relativement simple d'organisation. On a un hall d'entrée qui dessert trois pièces. Donc là, on ressort pour aller dans le hall. Et on rentre dans la grande salle. Au niveau de la fréquentation des archives, il faut distinguer deux choses. D'une part, il y a souvent au moment des journées du patrimoine des ouvertures au public pour montrer le bâtiment, son décorum et expliquer pourquoi ces archives sont là. Et ensuite, ça c'est différent des lecteurs qu'on accueille tout au long de l'année sur rendez-vous. Donc ces lecteurs, quel profil ont-ils ? D'une part, on a des personnes qui sont des passionnés du canal, qui ont lu une grande partie des livres disponibles, qui n'ont pas réponse à leurs questions. Donc à un moment donné, ils se disent il faut aller aux sources. Et ils arrivent ici. Et il y a des lecteurs comme ça qui ont passé des années et qui sont devenus des auteurs et qui ont eux-mêmes partagé les connaissances qu'ils ont engrangées après des heures et des heures de recherche. Il y a des personnes qui font leur généalogie et qui ont un ancêtre à un moment qui apparaît, qui a été éclusier ou qui a été membre de l'administration du canal. Donc ils viennent voir s'ils ont un peu plus d'informations ici. On a aussi des porteurs de projets, des personnes par exemple qui occupent une maison éclusière avec une convention d'occupation temporaire délivrée par Voies Navigables de France et qui veulent en savoir un peu plus sur la maison qu'ils occupent, quelle est son histoire, qui a occupé cette maison avant eux, à quel moment elle a été construite ou comment elle a été modifiée, souvent au XVIIIe siècle, au XIXe siècle. Donc, en consultant les archives ici, on peut arriver à avoir les réponses. On n'a pas toutes les réponses, ou alors il faut passer du temps. et puis, bien sûr, des étudiants. qui font des travaux soit dans le cadre d'un master, soit dans le cadre d'une licence d'histoire ou de droit ou de géographie. Ou actuellement, on a un partenariat avec l'École nationale supérieure d'architecture de Toulouse, l'ENSAT. Donc on a des étudiants qui travaillent sur des projets de valorisation de bâtiments. Et donc ils viennent ici chercher de l'information sur ces bâtiments. Voilà, c'est très divers. On accueille tout le monde, bien sûr. On n'a pas le droit de refuser un lecteur qui souhaiterait venir consulter ses fonds. La seule contrainte, vu que la salle de lecture est toute petite, c'est de prendre rendez-vous avec moi et ensuite de travailler dans ce cadre particulier. Voilà, donc là, on est dans cette grande salle dans laquelle, normalement, les lecteurs ne pénètrent pas. C'est par contre dans cette salle-là que les stagiaires que j'accueille travaillent en règle générale. C'est aussi dans cette salle qu'on accueille les groupes quand on fait un accueil pour les gens du patrimoine, par exemple. Donc là, on ressort de la pièce de la grande salle, de la grande réserve. Il y a la petite réserve. Donc c'est une pièce qui n'est pas non plus destinée à accueillir des lecteurs, puisque on serait dans le noir, enfin il y a de la lumière, mais c'est une pièce qui est vraiment aménagée pour la conservation des papiers. Mon archive préférée, c'est celle qui va répondre à la question qu'on me pose au moment donné. C'est quand on a une question qu'on ne trouve pas la réponse, c'est très frustrant. Et quand on tombe sur la réponse, des fois on cherche une réponse à une question pendant des semaines ou des mois, on la garde dans un coin de la tête, là ça nous fait une petite charge mentale. Et quand on trouve la réponse, bah, on est très content parce que d'une part la charge mentale, hop, elle s'en va. Et d'autre part, on peut répondre à l'interlocuteur qui a posé la question. Et c'est le plus gratifiant, enfin le plus, c'est un des moments gratifiants de notre métier, quoi. C'est de pouvoir exhumer une information et la diffuser à qui la recherche. Alors, le rôle de Voies Navigables de France, il faut dire d'abord que c'est un établissement public d'obédience nationale. Il a été créé en 1991 pour gérer pour le compte de l'État une grande partie du réseau fluvial national. On a en France 8000 km de voies d'eau navigables et Voies Navigables de France gère 6500 km de voies d'eau. Notre siège est installé à Béthune, dans le Pas-de-Calais. Et on est organisé en 7 directions territoriales qui correspondent à des bassins de navigation. Sur ces 7 directions territoriales, moi j'appartiens à la direction territoriale sud-ouest qui a la gestion du réseau depuis Bordeaux jusqu'à l'étang de Thau. Et ce réseau est constitué de deux grands ensembles. D'un côté, le canal du Midi, qui est du XVIIe siècle, hein, et qui est enrichi par des embranchements qui datent de la fin du XVIIIe siècle, le canal de Brienne à Toulouse, et le canal de Robine et Jonction, qui permet de descendre du canal du Midi sur Port-la-Nouvelle en passant par Narbonne. On inclut dans cet ensemble le système d'alimentation de la Montagne Noire, qui permet bien sûr de collecter toute l'eau, qui permet de remplir le canal du Midi à son point le plus haut, c'est-à-dire au seuil de Naurouze. Et ça, c'est le premier grand ensemble. Le second, c'est un autre embranchement, mais qui est beaucoup plus important que les deux autres. C'est le canal latéral à la Garonne, qui part de Toulouse, du port de l'Embouchure, et qui permet aux bateaux de descendre jusqu'à Castet-en-Dorthe, où là, on regagne la Garonne. Donc c'est un canal qui est parallèle au fleuve, sur une grande partie de son parcours, et qui permet la navigation aisée entre Toulouse et Bordeaux. Alors le bien UNESCO Canal du Midi, lui, ne concerne que la partie Toulouse-Étang de Thau, la partie 17e, plus les petits embranchements de la fin du 18e siècle. Alors effectivement, Voies Navigables de France, pour la direction territoriale sud-ouest, a la particularité de gérer le bien UNESCO Canal du Midi, qui a été inscrit en 1996, donc il y a 30 ans. L'inscription d'un bien partout dans le monde se fait sur des critères précis. Le canal du Midi a été inscrit sur 4 critères. 4 critères qui correspondent à 4 particularités du canal. Alors, l'un des critères, c'est l'ingéniosité de la construction et la prouesse technique que représente cette infrastructure à l'époque où elle a été construite. Il y a eu des choses vraiment novatrices qui ont été conçues. Il y a des ouvrages d'art qui ont été construits et qui ont fait date dans l'histoire des infrastructures de l'époque. Je prends l'exemple du barrage de Saint-Féréol. Ça a été le plus grand barrage construit en Europe et qu'il n'est resté jusqu'au XIXe siècle. Donc ça, c'est vraiment la prouesse technique. C'est aussi un ouvrage qui a été représentatif d'une période de l'histoire, celle des transports fluviaux. Et la maîtrise du génie civil hydraulique a avancé avec la construction du canal du Midi. Et ça a ouvert la voie à d'autres constructions hydrauliques de ce genre. Il y a eu aussi l'idée d'avoir une infrastructure qui répondait à un objectif d'aménagement du territoire, puisque l'idée, c'était de pouvoir exporter des productions au Languedoc, en fait, de la zone du Lauragais et du Toulousain, vers la zone du Bas-Languedoc et la zone Montpellier-Rennes, la zone littorale de la région Occitanie aujourd'hui. Le canal a permis de vitaliser en fait, l'économie du Languedoc, qui était une grande province, mais qui était assez déficiente en termes de voies de communication. Il y a eu aussi le fait que le canal a été inscrit dans le territoire, mais d'une manière harmonieuse. Alors, il y a eu après, au XVIIIe siècle, les plantations qui ont affirmé ce côté paysager du canal. Mais avant même que les plantations soient là, le canal se glisse dans le territoire en suivant des courbes de niveau. Donc, ce n'est pas un ouvrage rectiligne comme ceux de l'époque industrielle, ceux du XIXe siècle, qui ont été créés, comme le canal latéral à Garonne, s'imposent dans le paysage, plus que le canal du Midi ne fait. Le canal du Midi, lui, il serpente beaucoup, des fois il se cache derrière une butte, il réapparaît, enfin, et ça crée un paysage qui est assez doux, et qui est très apprécié d'ailleurs des plaisanciers aujourd'hui. Cet ensemble de perceptions qu'on a pour le canal du Midi a amené à considérer qu'il était digne de figurer sur la liste du patrimoine mondial. Et donc aujourd'hui, Voies navigables de France doit valoriser ce bien, l'entretenir et le faire connaître. Ça fait partie aussi de ses missions, d'améliorer la connaissance de l'ouvrage d'art, de la manière dont il a été administré, de ce que sa présence dans le territoire a permis de développer, etc., etc. Donc ça, on s'appuie autour de nous sur des réseaux institutionnels comme ceux des offices du tourisme, par exemple, qui sont des relais sur le territoire de ce qu'on peut diffuser comme information historique. Mais on s'appuie aussi sur un réseau associatif qui a chacun ses actions sur le canal.
Bah merci Samuel.
Merci à vous.
C'était les archives du canal du Midi, plongées dans les coulisses d'un patrimoine vivant. Je tiens à remercier M. Vanier de s'être prêté au jeu et à Romain de l'association Les Pièces au Loup de m'avoir fait découvrir, tout comme vous, les archives du canal du Midi. Réalisé, monté et mixé par Sophia Riboloff.
C'était Parlons Nature, une émission de résonance sonore soutenue par la DRAC Occitanie. Retrouvez son podcast sur www.resonance-sonore.fr.